Les timbrés.
Les timbrés. Michel Soulier.
Association philatélique Montpellier-Rennes. Les timbrés, Michel Soulier.
Michel Soulier, vous allez évoquer la question de la rareté en philatélie. On le sait, tout timbre a une valeur faciale, mais quel est le lien entre la rareté d'un timbre et la valeur de ce timbre-là? Quelle est la part de subjectivité, d'objectivité d'une valeur d'un timbre, Michel Soulier?
C'est un vaste sujet. Vous savez, tout philatéliste se pose un jour ou l'autre la question de la rareté et de la valeur d'une pièce qu'il souhaite acquérir. Bon, et d'autre part, les non-philatélistes, quand ils se trouvent hérités d'une collection, s'imaginent effectivement qu'ils ont entre les mains le pactole. Et ils risquent fort d'être très déçus parce que...
C'est rare d'avoir le pactole.
C'est rarissime. C'est rarissime et en général, ce sont des timbres de très petite valeur et sans aspect ni de rareté. Bon, c'est normal. Hein. Mmh. C'est des timbres qui ont été accumulés au jour le jour, souvent récents. Donc, ça ne joue pas vraiment sur la fortune de la famille en général.
Donc, il faut faire ça par passion et pas par intérêt
absolument.
Lucratif.
Absolument. Il ne faut pas partir avec cette optique-là. On risque d'être fort déçu. Fort déçu. Bien. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une pièce rare? Bon, une pièce rare, ça va aussi dépendre du type de collection que l'on fait. Hein. S'il s'agit d'une collection de timbres classiques, c'est-à-dire avant 1900, si c'est de l'histoire postale, donc là, ça peut remonter depuis le 16e siècle jusqu'à nos jours, de marcophilie, c'est-à-dire ce qu'on trouve sur les lettres, de thématiques. Bon, là, les types de pièces rares vont être différents. Mais qu'est-ce que c'est qu'une pièce rare? C'est une pièce qui est peu fréquente, existant en un petit nombre et d'exemplaires, et voire quelquefois même unique. Bon, c'est ça la rareté. Hein. Bon, en général, par exemple, en philatélie classique, il va s'agir d'un timbre qui est déjà peu courant, qui est difficile à trouver, mais également, il faut qu'il soit en bon état. Il va accumuler un certain nombre de caractères qui vont également
jouer sur sa rareté. Voilà. Faveur ou défaveur si.
Absolument. Les philatélistes, quand ils ont un timbre, souhaitent l'avoir dans ce qu'ils appellent la fraîcheur postale. C'est-à-dire que, quelle que soit sa date d'émission, il faut qu'il soit
comme neuf,
les couleurs vives, les dents pas touchées, la gomme derrière pas touchée non plus. Enfin, ce sont des perfectionnistes. ne vous faites aucune illusion.
Il va y en avoir quelques-uns des perfectionnistes chez les philatélistes.
Oui, oui, oui. c'est de là que découle aussi la guerre entre les timbres neufs, les timbres oblitérés, les timbres avec charnière, les timbres sans charnière. Bon, ça, c'est au fond des questions de convention. Hein, des collectionneurs n'achèteront que des timbres neufs. Bon, si je parle personnellement, par contre, moi, je préfère un timbre qui a vécu son histoire de timbre, donc qui a servi sur du courrier. Donc
un peu de patine sur le timbre.
Non, et surtout qui est oblitéré. Ça veut dire que, en tant que valeur fiduciaire, il a été utilisé. S'il est neuf... Bon, oui, c'est comme si vous aviez un billet de banque neuf que vous ne pouvez pas utiliser. Bon, donc ça, mais c'est des questions. Chacun collectionne comme il l'entend. Hein. Il faut quand même être clair là-dessus. Ça, c'est pour la valeur. Et la valeur, ça ne veut. La rareté, ça, c'est pour la rareté. La rareté ne veut pas forcément dire valeur très élevée ou coût très élevé si on veut l'acquérir. Ça, c'est un autre concept qui a finalement pratiquement rien à voir avec la rareté. Je m'explique. Un exemple, c'est si vous prenez un des timbres les plus chers de France, que tout collectionneur de France cherche à avoir, c'est ce qu'on appelle le 1 franc vermillon. Hein, c'est un timbre de 1849, donc des premières émissions, qui représente une tête de Cérès. Bon, il n'est pas spécialement moche, il n'est pas spécialement beau. Bon. Et il est relativement rare parce que c'est un timbre qui a été sorti de la circulation très vite. Parce qu'on risquait de le confondre avec un timbre qui était sorti dans une couleur qui était relativement proche, c'était le 40 centimes orange. Et souvenez-vous que en 1849, il n'y avait pas l'électricité dans les bureaux de poste. Donc l'éclairage à la lampe à pétrole pour distinguer un orange d'un vermillon, c'était pas évident. Donc la poste a tout de suite dit bon, il faut changer la couleur parce que sinon on va
perdre de l'argent.
On va vendre 40 centimes des timbres à un franc. Ouais. Donc ça n'allait
pas. C'est
pas
bon, ça.
Et donc ce vermillon n'a pas eu une vie très longue. Il a quand même existé assez longtemps. On sait combien il en a été vendu. Il en a été vendu plus de 350 000. C'est donc pas un timbre rare en soi. En plus, c'est un timbre que vous pouvez vous procurer très facilement.
Vous voulez l'acheter aujourd'hui, on peut l'acheter chez un négociant en timbre.
N'importe quel négociant en timbre, vous lui dites je veux un vermillon. Bon, il va mettre peut-être quelques jours pour le trouver, mais il vous trouvera un vermillon, c'est pas un problème. Hein, et c'est pourtant un des timbres les plus chers de France. Pourquoi ? Ben, tout bêtement parce que tous les collectionneurs veulent l'avoir, donc il y a un marché. Et finalement,
c'est le principe de l'offre et la demande
qui se place
aussi.
Absolument.
Ici.
Et c'est l'offre et la demande qui vont faire la valeur du timbre. Et en résumé, si vous voulez, vous pouvez donc avoir un timbre comme le vermillon qui a été donc vendu à plus de 350 000 exemplaires, qui va coûter beaucoup. Et puis vous allez avoir une lettre, par exemple, qui a été postée sur les canonnières du Yangtze en Chine, qui a emprunté la voie de Sibérie pour aller en Algérie. Bon, ça, on en connaît un exemplaire. Avec le cachet du bateau. Un exemplaire.
Ça, c'est vraiment...
Vous allez payer 30 000 euros un franc vermillon et vous allez payer 15 euros une lettre qui est unique. Mmh. Et qui donc, en termes de... Elle, c'est la rareté. Par contre, il n'y a pas de valeur parce que il y a combien de collectionneurs qui vont se l'arracher ?
Peu.
Peu. Oui, donc,
c'est ça.
Le marché n'existant pas, ça ne monte pas. Mmh. Donc, c'est là où il faut faire très attention entre rareté et valeur. Ouais. Ça ne va pas forcément ensemble.
C'est ça. Donc, vraiment, la collection des timbres, c'est par amour.
Voilà. L'autre aspect, c'est ce qu'on appelle la cote. Alors, tous les catalogues donnent une cote, c'est-à-dire un prix théorique auquel peut se vendre un timbre. Ça, c'est un piège, un beau piège. Parce que d'abord, c'est calculé sur des marchés, des ventes sur offre, des choses comme ça. Mais jamais, vous n'arriverez à vendre. Si vous avez un timbre qui coûte 100 euros, jamais vous ne le vendrez à 100 euros. Mmh. Sauf s'il est d'une qualité exceptionnelle, etc. Jamais. Vous allez le vendre entre 15 et 30, voire 40% de la cote, ça dépend du thème.
Est-ce que vous êtes en train de dire que le catalogue surestime ses cotes? Ou bien
oui,
ce n'est pas
oui,
en
donne,
fonction de la réalité?
Non, il donne en fait une direction. Hein, mais il ne donne pas la valeur réelle du timbre sur le marché.
Sur le marché. Hein, c'est un peu comme l'Argus des automobiles.
Voilà, si vous voulez l'acheter, ben vous le paierez peut-être même moins que la cote. Mmh. Actuellement, en général, les commerçants même vendent les timbres en dessous de la cote. Alors, si vous voulez le vendre, c'est encore pire, bien sûr. Donc, ça donne une indication... Mmh. Mais ce n'est pas une valeur absolue intrinsèque.
Donc, attention au catalogue.
Et ça, il faut le savoir, parce que les gens se font vraiment des illusions. Ils ont des timbres, ils ont un catalogue, ils regardent la cote sur le catalogue, ils totalisent, ils vont voir un négociant ou ils cherchent avant le truc, et ils sont catastrophés parce qu'ils sont...
L'addition ne correspond pas, à l'addition du marchand.
Voilà. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir.
Ouais, absolument.
Et ne pas se faire... En philatélie, il ne faut quand même pas se faire des illusions. C'est vrai que des timbres peuvent avoir de très grandes valeurs. On en a déjà parlé quand on a parlé du timbre le plus cher du monde. Donc, c'est vrai que certains timbres peuvent avoir de très, très grandes valeurs. Mais d'abord, ils sont extrêmement peu courants. Hein, et en général... Malheureusement, ça, c'est une philatélie qui est réservée à des portefeuilles bien remplis et pas à la portée du philatéliste de tous les jours.
Quoi. Voilà, c'est prudence clair. Alors.
Oui, il faut être prudent.
Merci Michel Soulier. Au revoir.
Au revoir.
C'était Les Timbrés. Michel Soulier, Association philatélique montpelliéraine.